Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents, tout simplement avec un projet d'enfant en tête. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadra ou presque. La gestation pour autrui, mieux connue sous le nom de GPA, est totalement interdite en France. En dehors de l'adoption, c'est pourtant la seule option qui s'offre aux couples homosexuels pour devenir parents. Un parcours à l'étranger, coûteux et complexe, parfois semé d'embûches, qui concerne en France 300 enfants par an. Pour en parler, j'ai tendu mon micro à Ludovic, futur papa GPA. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Merci de me recevoir chez toi. Ludovic, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es, en quelques mots, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille.
Alors, je m'appelle Ludovic, j'ai 41 ans depuis quelques jours. Je vis à Paris depuis 2011 et je suis aujourd'hui principalement occupé par un travail qui me passionne et qui n'est pas toute ma vie. Je travaille dans une enseigne de jardinerie pour laquelle je m'occupe du développement et du développement durable. Et puis j'ai beaucoup d'activités aussi un peu activistes, écologistes en dehors de ça. Et pour finir, donc j'ai la chance d'être marié, d'être en couple depuis quelques années avec Maxime. Nous attendons un petit garçon dans un mois.
Dans un mois, ok, donc c'est vraiment imminent là. Tu vas nous raconter ton parcours assez atypique pour devenir père. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on parle du désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ?
Alors, déjà, je crois que j'ai la chance de n'avoir pas pour le moment coupé la part d'enfant en moi. Et je la sens toujours très présente, que ça soit dans l'émerveillement ou l'étonnement sur les choses, l'envie de jouer, et puis un peu ce recul sur ce que font les adultes en général. J'en suis un, donc je l'assume totalement, mais j'ai toujours voulu, enfin senti que j'avais envie et besoin de préserver ce lien avec l'enfant que j'avais été. Et ce désir d'enfant, je ne l'ai pas depuis que je suis adolescent, ça est venu plus tard.
D'accord.
C'est venu plus tard et c'est aussi venu dans un parcours personnel et sans doute aussi psychologique classique de distanciation avec l'enfant que j'étais, avec ses blessures, ses problèmes, ses joies, etc. Et ça, c'est venu pour moi assez tard. Je pense que c'était plutôt vers 35-40 ans, voilà, dans les 5 dernières années.
D'accord. Quel était ton modèle familial ?
Alors, un modèle familial très heureux, avec une famille stable, un petit frère, deux parents qui étaient et qui sont toujours en province, et qui ont une carrière et une vie typique de la société de consommation et d'enrichissement personnel des années 80, 90, 2000. Mm-hmm. Donc tout allait bien. Et ça m'a permis moi-même de pouvoir me développer, de faire énormément d'activités sportives, de pouvoir être connecté avec ma famille qui était plutôt à la campagne, mais aussi de pouvoir voyager. Et de bénéficier d'un environnement éducatif et culturel très riche. Beaucoup de chance.
Et comment tu as découvert ton homosexualité ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su ? Ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ?
Alors, il y a eu trois phases. Il y a eu une phase de déni total, jusqu'à ce que j'ai 27 ans. Cette phase a été véritablement pour moi constitutive de mon caractère, de ma personnalité, puisque pour survivre dans la société et être heureux, j'ai développé un esprit de compétition et de réussite très fort qui me permettait en fait de ne pas affronter ce que je considérais être un problème mais qui en fait n'en était pas un. Et cette phase a duré jusqu'à 27 ans, jusqu'à ce que j'ose à m'en ouvrir pour la première fois à quelqu'un qui était mon frère. Et ce moment-là a d'ailleurs changé complètement notre relation et l'a beaucoup enrichi. Puis après, il y a eu une deuxième période jusqu'à ce que je rencontre Maxime, où j'avais fait mon coming out, mais en fait, je continue à me mentir en pensant et en disant aux gens que cela avait commencé quand j'avais 27 ans, alors que je sais depuis très petit qu'en fait, j'ai cette préférence sexuelle. Donc cette deuxième phase, elle s'est arrêtée un an et demi après avoir rencontré Maxime, à qui je mentais aussi, jusqu'à ce qu'il, à force de gratter la carapace, il m'a fait découvrir qu'en fait, effectivement, c'était beaucoup plus profond que ça et que ce n'était pas non plus un sujet. Et donc voilà, donc il y a eu cette troisième phase qui a commencé, dans laquelle évidemment je me sens beaucoup plus heureux et puis beaucoup plus apaisé par rapport à tout ça.
Plus aligné aussi.
Plus aligné aussi, ouais, tout à fait.
D'accord. Et alors comment se passe cette première partie de vie, cette vie de jeune adulte? Tu me disais que tu avais tendance à cramer un peu la vie par les deux bouts.
Oui, c'est vrai. Je pense que j'ai toujours eu l'impression de correspondre beaucoup à la période et à la période dans laquelle on est. Et c'est vrai que dans ces années 90-2000, c'était quand même les années de la mondialisation, des carrières dans des grandes entreprises, de présidents un peu spectaculaires type Sarkozy, etc. Et ça a correspondu tout à fait à l'expérience de vie que j'avais, où effectivement je bossais beaucoup, je travaillais beaucoup, mais aussi je faisais beaucoup la fête. Et j'enchaînais aussi les conquêtes amoureuses et les voyages. Voilà, donc c'était cette espèce de volonté de fuite en avant, sans s'en rendre compte forcément, qui est très valorisée par la société encore aujourd'hui et par les réseaux sociaux. Et donc j'ai été un des premiers à avoir Facebook, ensuite Instagram, avec un compte, avec plein d'utilisateurs, etc. Et c'est vrai que ça remplissait beaucoup ma vie. Voilà. Jusqu'à assez peu de temps. Je veux pas tirer un trait là-dessus en disant que c'était entièrement négatif, puisque j'ai eu la chance de pouvoir faire énormément de choses, de visiter plein de pays, etc. Et puis de travailler sur des projets professionnels très importants, avec des réalisations très concrètes. J'ai beaucoup travaillé avec des enseignes internationales pour les faire venir en France ou en Europe ouvrir des nouveaux magasins. Et c'est vrai que l'ouverture d'un Apple Store avec, dans les années 2000, avec les milliers de personnes qui se pressent à l'entrée, à l'époque, je pleurais. Aujourd'hui, je pleure de voir ça à l'inverse, parce que je me dis mais pourquoi ? Enfin, pourquoi on a besoin d'un iPhone 11, etc. Donc voilà, j'ai un peu de recul quand même par rapport à tout ça, mais j'étais vraiment au cœur du tourbillon. Totalement.
D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu bascules dans toute autre chose ?
Deux choses, je pense. La première, c'est finalement cette accumulation où on va de plus en plus haut, on va de plus en plus vite. Et puis on se dit, qu'est-ce que c'est la prochaine étape ? Est-ce que c'est prendre un avion tous les deux jours ? Est-ce que c'est diriger une équipe de 100 personnes sans connaître personne et puis les traiter un petit peu comme des objets ? Est-ce que c'est passer sa vie à faire la fête et puis finalement tomber dans une phase qui peut être très sombre avec de la drogue ou d'autres choses comme ça. Donc j'ai senti que le fil était de plus en plus fin. Et je crois qu'il y a eu un événement en particulier, un entretien professionnel avec un des membres du directoire de mon entreprise, où j'avais eu une augmentation, où j'allais être récompensé, mais c'était pas assez. Voilà, c'était pas assez. Et là, la personne m'a dit très clairement, là, je pense que tu es un enfant gâté, en fait. Donc, il faut que ça s'arrête. Et là, ça m'a vraiment touché. Et puis, la deuxième chose qui est plus positive, c'est l'amour. c'est la rencontre avec Maxime, qui est une des premières personnes où vraiment j'ai pu être authentique à 100%, où j'ai accepté aussi mes faiblesses, le fait de ne pas être toujours un vainqueur, toujours devant les autres, même physiquement, puisque j'ai tendance à marcher très vite et à être toujours devant les autres. Donc c'est vraiment, ça se retrouve aussi dans la réalité. Et cette rencontre m'a vraiment ouvert les yeux sur un autre monde possible. Il y a beaucoup de choses ensuite qui se sont passées dans mon développement personnel, mais c'est vraiment cette rencontre-là et cette autre sphère qui n'est pas celle de la quantification du toujours plus, d'une espèce d'économie de marché où on est sur des applications en train de regarder si l'autre personne vous correspond, si le voyage qu'on va faire est instagrammable ou pas, etc. Ouais, ça a vraiment été ce basculement et je pense que ça arrive dans la vie de plein de gens beaucoup plus tôt, tant mieux.
Oui. Ou jamais.
Ou jamais. Et c'est vrai que j'ai un certain nombre d'amis, filles, garçons que je connais qui sont dans ce cas-là et qui, je pense, n'arrivent pas à laisser cette place à l'amour, qui détruit aussi un certain nombre de choses, bien sûr. Donc voilà, ces deux choses-là, un espèce de wake-up call très concret et puis cette présence de Maxime.
Et comment a éclos le désir d'enfant ?
Alors, le désir d'enfant, il a éclos d'abord dans ma tête tout seul, comme une des dernières manifestations de mon ancien moi, qui était « Ah oui, il faut faire un truc en plus, un nouveau projet. » Et donc je me suis lancé tout seul, en fait, sans en parler à Maxime, dans une recherche de coparentalité,
d'accord,
qui est quand même une option très compliquée, mais qui existe, de pouvoir concevoir un projet d'enfant avec une autre femme avec qui on n'est pas en couple, ou un autre couple de femmes, ou un autre couple hétérosexuel avec peut-être des problèmes de fertilité. Et donc je me suis inscrit à un site pour cela, et j'ai commencé à
le
avoir quelques profils.
Coparents, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et puis on était en vacances avec Maxime entre Noël et le jour de l'an, et je lui dis, je lui donne l'information. Et là, la réaction a été assez brutale, genre mais de quoi tu me parles ? On n'en a jamais parlé, c'est un changement de vie total. Moi aussi j'ai envie d'avoir un enfant, mais pas du tout de cette manière-là. Et donc là, je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie et que il fallait reprendre un peu tout à zéro. Donc,
Oui, parce que la coparentalité, c'est quand même assez particulier et ça ne fonctionne pas toujours. Enfin,
bien
en
sûr.
Tout cas, de
oui, c'est un schéma compliqué où dès le début, il y a 2, 3, 4 personnes autour de l'enfant avec des schémas de vie qui peuvent aussi être des schémas où il y a des séparations ou des déménagements. Et cette notion de coéducation à distance,
qui est scellé par un contrat ?
Oui.
Comment ça se passe ?
Tout à fait, c'est
contrat...
signé par un contrat, signé par les différents participants. Et c'est vrai que les quelques témoignages que j'ai pu avoir en discutant ou en rencontrant une ou deux personnes ont été compliqués. Mais à l'époque, dans ma tête, le besoin d'une maman, d'une figure maternelle, était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Je n'avais pas encore travaillé, on va dire, me questionner par rapport à tout ça.
Et justement, alors comment t'es-tu questionné par rapport à ça ? Quel besoin as-tu envie de combler avec ce désir d'enfant ?
Alors, ce désir d'enfant, moi je le vois comme un projet de vie qui permet de devenir une meilleure personne. Je le répète et je le pense vraiment. Par ce changement de dimension par rapport à l'égoïsme qu'on peut avoir par rapport à soi, au fait de s'occuper de quelqu'un d'autre, de l'aider à devenir autonome aussi. Je le vois aussi comme une part de vie et d'étincelle, de joie, de dynamique qui s'inscrit dans ta propre vie et donc qui est positive parce qu'on devient tous effectivement de plus en plus vieux et puis on n'a pas forcément ce dynamisme et cette envie de faire des choses tous les jours. J'en parlais avec ma dentiste l'autre jour qui m'a dit, j'avais pas pensé, elle m'a dit « Oui, les enfants, ça vous donne envie de vivre plus longtemps.
Mmh. » Oui,
et donc de vous battre pour vivre.
Tout à fait.
Elle n'est pas beaucoup plus âgée que moi et je ne pensais pas à ça, mais c'est vrai que ça fait partie sans doute de l'équation aussi.
Une certaine transmission aussi peut-être ?
Ça, je suis complètement à l'aise avec ça. Une transmission de culture, de valeur, parce qu'on est cette espèce d'espèce sur Terre qui est très particulière, parce qu'elle se développe avec cette idée de culture. Donc le petit enfant qui naît, il n'a pas du tout toute cette culture, il va la récupérer via ses parents. Et ce passage de relais de génération en génération, moi je trouve ça fabuleux de participer à cette histoire. Et cette même personne ensuite va la passer à d'autres, que ce soit à travers des enfants ou des collaborateurs ou des gens avec qui elle va travailler sur des projets. Et moi ça me plaît, déjà dans mon travail et dans ce que je fais dans mes activités à côté, mais alors là c'est vrai que je trouve ça encore plus extraordinaire.
Donc vous laissez tomber la question de, enfin l'option coparentalité avec Maxime.
Oui, du jour au lendemain.
donc parce que lui du coup il te dit que c'est...
Il n'est pas à l'aise du tout avec ça.
Il n'est pas à l'aise avec ça. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de monde et que ce soit un petit peu flou.
Et qu'il se sente, si jamais c'est mon enfant biologique, un peu le beau-parent, d'un coup, tout de suite au début.
D'accord.
Il n'y a vraiment pas du tout cette notion de... On élève vraiment l'enfant ensemble, il y a cette complexité par rapport à ça. Et c'est ce que donnaient les témoignages aussi des couples qui disaient « Oui, c'est vrai que l'autre parent n'est pas tout à fait dans le même statut dans la relation entre tout le monde. »
Bien sûr. Du coup, qu'est-ce qui vous reste comme option à ce moment-là ?
L'adoption,
ouais.
Ou un projet de gestation pour autrui à l'étranger.
Ok.
Sachant que donc l'adoption, donc on contacte en fait à ce moment-là la PGL, l'Association des parents gays et lesbiens, qui est une formidable association qui fait un travail non seulement bien sûr législatif, d'explication au pouvoir politique, au monde associatif, aux autres associations de famille, mais qui fait aussi un travail de soutien aux parents ou aux futurs parents qui est extraordinaire. On la contacte et on discute avec notre correspondant des différentes options qui nous indiquent clairement que l'adoption en France est très longue et très compliquée pour des couples homosexuels parce que les commissions départementales d'adoption ne sont pas formées avec des membres qui sont exempts d'homophobie. Voilà, il n'y a pas cet aspect-là. Et que les procédures d'adoption en France, même pour les femmes seules, ça a mis beaucoup de temps en fait à devenir quelque chose d'acceptable pour l'État et la société. Et là, c'est pas encore le cas. Et que, en plus, malheureusement, ce sont souvent des enfants très âgés ou malades qui sont en fait confiés. Alors, on voit pas du tout le rapport, mais c'est ce qui se passe.
D'accord. En fait, la sélection n'est pas la même pour les couples homosexuels que pour les couples hétérosexuels.
C'est avec ces espèces de couples de seconde zone, on a des enfants de seconde zone, donc on les met ensemble. Donc, c'était,
c'est clairement. Il y a encore du travail. Hein.
Ouais, il y a encore du travail. Et en plus, ça dépend de chaque conseil départemental, donc ça peut être très, très discriminant d'une région à l'autre, pour des raisons inexpliquées.
Oui, donc compte tenu du fait que l'adoption, c'est déjà pas très simple quand ça se passe de façon classique, vous vous êtes peut-être dit que c'était une option à mettre de côté, enfin que ça allait être
compliqué. On l'a mise de côté, l'a mise de côté. Mais on ne la met pas forcément de côté pour peut-être, si jamais on veut avoir un deuxième enfant. Je pense que quand on est une famille constituée avec un premier enfant, c'est peut-être plus facile. Mmh. Donc, voilà.
Ouais, bien sûr.
Donc du coup, on a rapidement rejoint un groupe de parole de la PGL qui rassemble des parents qui sont en questionnement par rapport à la GPA, avec à peu près 7 ou 8 couples qui se réunissent du coup... de manière un peu clandestine, tous les mois et demi, tous les deux mois, pour discuter de tout ça.
De façon clandestine ?
Au début, on a vraiment cette réalité que la GPA est interdite en France, mais que dans d'autres pays, c'est possible. Et donc, par rapport à ça, on ne sait pas qui est susceptible de pouvoir en parler ou pas, en termes de parole. Voilà. Donc évidemment, rien ne se passe en France, mais il y a quand même des gens en France qui ont des informations par rapport à ce sujet. Donc la PGL est dans une volonté d'information et d'aide pour les parents. Après, on se pose la question sur des conseils avocats, des médecins, des psychologues, etc. Et tout ça est assez, est vraiment, ce qui est logique, sous le boisseau pour le moment en France.
Mmh. Voilà. Et parce qu'en fait, quand on entame une GPA, il faut quand même trouver des relais en France, notamment chez les psychologues, les médecins, etc. Il faut pouvoir obtenir des feuilles de soins, donc il faut trouver gens qui sont...
des alliés,
qui sont des alliés, oui, voilà, et qui sont prêts à vous aider. Donc, j'imagine qu'il y a tout un réseau qui est organisé autour de ça.
Oui, tout à fait. Il y a des gens qui ont la conviction et puis aussi le courage, parce que c'est pas forcément reconnu aujourd'hui, d'accompagner les parents d'intention là-dessus. Donc, du coup, on a rejoint ce groupe et ça a été vraiment un parcours très humain. Dans ce sens-là, parce qu'il y avait tout de suite cette solidarité avec les 6 autres couples. Donc on a beaucoup échangé sur... on a beaucoup consulté aussi, différents conseils. On a aussi consulté aussi à l'étranger. Et puis, de toute façon, pour nous, il y avait un souci de légalité dans le pays qui était important et de normalité sociale dans le pays. Pour être plus précis, on ne voulait pas faire ça dans une situation où l'aspect économique allait être prépondérant et allait créer des situations très inégalitaires, par exemple en Inde ou en Ukraine. Voilà, il y a des possibilités dans ces pays-là. Ou au contraire, l'aspect légal n'était pas clair du tout, et donc avec des risques sanitaires pour la mère porteuse qui étaient potentiellement importants. Donc du coup, il reste en fait 2 pays, principalement, le Canada et les États-Unis.
Ok.
Donc, moi, je ne suis pas particulièrement pro-américain, mais bon, il faut quand même reconnaître que dans certains États américains où c'est en place, c'est extraordinaire. Parce que c'est à la fois super clean d'un point de vue médical, parce que la réputation des cliniques et des médecins dépend de leur taux de réussite et de leur capacité à accompagner les projets. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un projet aux États-Unis qui fait partie d'un marché. Qui est un marché médical qui s'applique à tous les autres cas médicaux d'ailleurs et qui garantit de l'efficacité et du service, mais qui est en même temps quand même un produit, ça c'est sûr. Voilà. Ouais. Donc on parle de dollars dès le début.
Oui, les mères porteuses sont rémunérées aux États-Unis alors qu'elles ne le sont pas au Canada. Je crois qu'elles sont juste défrayées.
Tout à fait. Voilà.
D'accord.
Après, nous, on aime beaucoup la Californie, donc du coup, on s'est orienté très vite vers...
Vous avez allié l'utile à l'agréable.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Et donc, on a décidé de rentrer dans ce process aux États-Unis, mais c'est vraiment un process où on rentre étape par étape. En fait, on a l'impression d'avoir cette énorme montagne au début, qui est effrayante parce que pour des sommes qui sont mises en route, pour la complexité des démarches, etc. Mais en fait, sur les conseils de la PGL, on a tout de suite décomposé la démarche et on a commencé donc par la recherche d'une clinique.
En fait. D'accord, donc ça, on va parler justement des grandes étapes de la GPA. Donc la première, en tout cas quand tu fais ça aux États-Unis, c'est de trouver la clinique. Et pourquoi c'est crucial le choix de cette clinique, du coup ?
Alors, c'est crucial d'abord parce qu'elle détermine l'état où se passe, grosso modo, la plupart des étapes de la GPA, parce que c'est beaucoup plus pratique quand même. C'est crucial aussi parce que, en fonction du profil de la clinique, les degrés d'exigence sur la capacité de la donneuse d'ovocytes et de la mère porteuse sont différentes. Mm-hmm. Donc, d'accord. Ça va aussi peut-être avec le prix, mais en tout cas, il y a un degré d'exigence qui est différent. Et puis, c'est aussi un composant très, très important pour ensuite choisir l'agence qui, en général, les agences sont plutôt autour des cliniques ou en proximité des cliniques. En tout cas, ouais. C'est là où les projets se passent le mieux parce qu'il y a une proximité. On était très attachés à cette notion de proximité ensuite, une fois qu'on avait choisi la géolocalisation.
D'accord, oui.
Simplifier les choses et avoir toujours cet aspect humain. C'est-à-dire que okay. Les gens avec qui on allait faire le projet puissent se voir régulièrement. Alors les composantes, il faut quand même les détailler pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a la clinique qui produit les services pour récupérer en fait le sperme, pour voir récupérer les ovocytes, faire la réalisation de la création des embryons et ensuite faire le transfert de l'embryon à la mère porteuse. Ça c'est le premier acteur très important. Le deuxième acteur important, c'est bien sûr la donneuse d'ovocytes. Qu'on choisit, on va en reparler, mais un peu sur catalogue.
Oui, on va en reparler un petit peu, oui.
Le troisième aspect, c'est l'agence, en fait, qui représente les mères porteuses. Il y a vraiment cette capacité de représentation qui est très importante. La mère porteuse, qui est choisie, et puis les avocats. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de composantes différentes. Et nous, on a fait l'intégralité du projet avec des gens qui sont basés à Los Angeles et San Diego.
D'accord. Ça vous a pris combien de temps ? À partir du moment où vous avez choisi la clinique jusqu'à la grossesse
Un an.
D'accord, c'est une année. Et c'est un rythme classique pour une
non,
GPA
Non, c'est plutôt court. C'est plutôt court, une bonne nouvelle que ça soit passé aussi vite. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis un maniaque de l'organisation et des plannings ou parce qu'on a eu beaucoup de chance. Mon expérience me ferait dire qu'on a eu beaucoup de chance. Parce qu'au final, on a beau vouloir tout planifier, ça ne se passe jamais comme on veut. Et donc,
Alors tu vas nous raconter ça un peu dans le détail justement. Voilà. Donc le choix de la clinique est fait. Ensuite, comment choisissez-vous votre donneuse ? Tu parlais de catalogue, c'est vrai que c'est un petit peu l'idée qu'on a de la chose. Comment est-ce qu'on fait quand on est face à ce catalogue ? Est-ce qu'on se met des critères de choix ou est-ce qu'on plonge dedans un peu tête baissée en se disant bon bah on va voir, on y va au feeling, celle qui nous plaît, la première qui nous plaît, on la prend.
Juste avant ça, si je peux me permettre, on a quand même eu l'étape du sperme, qui n'est pas anodine.
D'accord.
On fait un spermogramme en France, on se rend compte comme malheureusement apparemment beaucoup d'hommes entre 30 et 40 ans que notre taux de fertilité est très bas, vraiment en dessous des critères de l'OMS, mais qui est quand même suffisant puisqu'il suffit d'un seul spermatozoïde pour une fécondation in vitro de ce type. Et puis ensuite, on va aux États-Unis pour faire le prélèvement de sperme. Donc là, c'est quand même le folklore à l'américaine parce que la réalité, c'est qu'on va dans une petite salle pour donner son sperme, mais quand même, la clinique fait pour que ça soit un événement. Donc, il y a une petite photo, on a un petit cadeau.
C'est beaucoup plus sympa que dans les centres de PMA en France, quoi.
Ah ben, je sais pas, mais
Parce que, en tout cas, c'était super positif. Oui, d'accord. Donc, c'est carrément une fête.
C'était une fête. Et d'ailleurs, c'est le même jour où on a fait ça et où Maxime m'a demandé en mariage. Donc, c'était vraiment un jour assez extraordinaire. Mais la partie clinique était géniale. On rencontre tous les professionnels qui vont s'occuper de soi, le docteur, les infirmières, etc. Et puis tout le monde est aux États-Unis, évidemment, dans un esprit amazing.
Oui, tout est incroyable.
Wonderful. Mais c'est vraiment une étape quand même importante qui est tout à fait réalisable pour un couple d'ailleurs en amont d'un projet. On peut aller aux États-Unis, donner son sperme. Ça coûte quelques milliers de dollars, même pas. Je crois que c'est 1 500 dollars dans la plupart des États. Ce qui est une petite somme, mais qui peut toujours être, on congèle son sperme et puis on attend de voir si on peut aller plus loin dans le projet.
Donc ça, cette étape, elle se fait vraiment... D'accord, je la voyais un peu plus tardivement, moi. Mais elle se
elle
fait...
Elle peut se faire tout de suite, d'une fois qu'on d'accord. a signé le contrat avec la clinique, en fait.
Et donc, vous choisissez de donner votre sperme l'un et l'autre.
Voilà, exactement.
Parce que l'idée, c'est quand même de faire congeler des embryons pour la suite aussi.
Tout à fait. Et de maximiser pouvoir, aussi les chances d'avoir des embryons viables.
Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez un petit peu cette discussion sur qui va donner son sperme en premier ? Enfin, quels embryons on va utiliser ? Ça peut être le hasard aussi, ça peut être, on prendra l'embryon qui se porte le mieux.
Tout à fait. Nous, dans notre couple, et c'est quelque chose que je vais garder un petit peu pour notre intimité, mais on avait un sujet, effectivement, par rapport à père biologique, pas père biologique. Donc du coup, on n'a pas fait au hasard.
D'accord.
On n'a pas fait au hasard.
Ok.
Mais c'est vrai qu'on peut faire tout à fait les deux, les combinaisons sont...
Et puis laisser le hasard un peu choisir
ouais, ouais, exactement.
Au moment où il faut faire le transfert.
Exactement.
Ok. d'accord, donc le prélèvement de sperme, et puis on arrive au choix de la donneuse.
Oui. Alors un choix de la donneuse qui est la partie qui pour moi était la plus perturbante, puisqu'elle est la partie la moins humaine. Puisqu'on est seul face à une base de données informatique où on a des profils, donc des dossiers d'une dizaine de pages pour chaque donneuse potentielle, avec une interview par un psychologue, toute l'histoire génétique, les maladies de la famille, des questions sur ses activités, ses mensurations, une ou deux photos. Voilà, c'est vraiment très très détaillé et au début, évidemment, on cherche à atteindre le Graal, donc à avoir quelqu'un qui a véritablement le plus de profils positifs, d'aspects positifs dans son profil.
D'accord, qui va cocher toutes les cases.
Qui va cocher toutes les cases. Donc on se retrouve vraiment un petit peu comme sur Tinder au début, en swipant et en essayant de se projeter en fait par rapport à un idéal. Et on a fait ça pendant un mois. Et puis, on a eu une première donneuse qu'on a sélectionnée. Et en fait, il se trouve que ça n'a pas fonctionné d'un point de vue ensuite embryon, puisqu'on n'a eu que deux embryons et ce n'était pas assez pour avoir une probabilité qu'ensuite ça fonctionne.
D'accord. Et cette première donneuse, donc, elle remplissait vraiment tous les critères
tout à fait.
Donnés. Parce que qu'est-ce qu'on a comme info sur ces donneuses ? Tu me dis, il y a un dossier de 10 pages, donc on a quoi ?
Sa profession, ses études, ouais. Ses mensurations, une photo, est-ce qu'elle a eu des maladies ?
Tous ses antécédents.
Ses antécédents, les études qu'elle a faites, etc., etc.
D'accord, oui, donc et tu me dis que vous avez passé un mois, donc...
Parce qu'en fait, on était...
Mais ça me paraît normal, en fait, de passer un mois devant un tel choix, parce que j'imagine qu'il y a des milliers de donneuses.
Oui, dans la base qu'on a consultée, qui était celle de la clinique, il y avait 70 donneuses à peu près en permanence.
Elles sont rémunérées aussi
Bien sûr, elles sont rémunérées en fonction de si elles ont donné ou pas avant, et donc si elles ont déjà, en fait... prouver quelque part que les dons étaient fertiles. Et aussi, on a remarqué de leur âge, puisque après un certain âge, effectivement, les ovocytes sont un peu moins fiables en termes de fertilité, et puis de leur degré d'étude aussi. Donc
d'accord.
Ça, c'était sans ça, parler...
Ça faisait partie des critères, oui. L'âge est important, le degré d'étude aussi.
Pour nous, non, en fait, parce que finalement, notre première donneuse, elle était garagiste dans l'armée.
D'accord.
Et donc, elle n'avait pas fait forcément beaucoup d'études. Mais...
Donc, ça veut dire que vous aviez plutôt d'autres critères, vous, peut-être, les
oui,
antécédents médicaux
les réponses au profil psychologique.
Ah oui, ok.
Voilà,
oui.
La façon dont elle répondait, et puis comment elle avait été quand elle était enfant. Enfin, voilà, si on sentait
d'accord,
qu'elle était alignée, équilibrée.
Ok, ok.
C'était principalement ça. C'était et ça puis, un critère de taille, puisque Maxime ne voulait absolument pas qu'elle fasse moins d'1m55. Donc...
ok. Bon, voilà. on peut choisir.
Oui, enfin... En fait, finalement, donc ça n'a pas marché avec elle. Et puis, on a, dès qu'on l'a su, on est retourné dans la base. Et là, on a choisi assez vite, en fait. Peut-être parce qu'on avait plus d'expérience et puis aussi parce que on avait décidé d'être un peu plus simple dans le choix.
Mm-hmm.
Voilà. Et puis de se dire aussi que tellement de choses se passent dans le développement d'un enfant, à cause de son environnement. Ouais. Que la génétique n'explique pas tout et que voilà, il fallait faire aussi la part des choses
bien
par
sûr,
rapport à ça.
Bien sûr, bah oui, il y a l'inné et l'acquis et que vous allez vous charger de l'acquis a priori.
Et les gens qui seront autour et la pollution et plein de choses.
Bien
donc,
sûr,
voilà,
bien sûr.
Bien sûr.
Donc là, vous avez fait un second choix.
On a fait un second choix qui s'est avéré un très bon choix puisque on est rentré dans la deuxième phase de la procédure où on a pu faire des embryons en nombre suffisant puisqu'on en a eu une vingtaine. Et là, donc en fait, on a deux possibilités aux États-Unis. On peut les faire tester. Ça s'appelle un test qui s'appelle le PGS test, pour savoir s'il n'y a pas des anomalies génétiques qui déboucheront sur des malformations ou sur des embryons qui ne prendront pas très rapidement.
Oui,
on peut aussi savoir le sexe. Et le problème de ce test, c'est qu'en général, le faire le test détruit beaucoup d'embryons. Donc, il faut faire le choix.
D'accord.
Donc, on a fait le choix, nous, de ne pas faire le test et de se dire avec le docteur qui le recommandait que de toute façon, les embryons qui avaient des problèmes de malformation, la plupart étaient détruits très vite. Donc, évidemment, c'était plus long, mais ce n'était pas non plus la peine de prendre ce risque-là. Donc, on a eu notre petite banque d'embryons avec les petites photos, on leur a donné des petits noms, voilà. Et puis, on est rentré dans la troisième phase, qui a été de choisir une agence de mère porteuse. Donc là, on a de nouveau, en parallèle, on était dans le groupe de parole de la PGL, avec d'autres couples qui étaient dans les mêmes phases. Donc on s'est échangé les informations sur les agences. Et en Californie, c'est vraiment un état où il y a beaucoup d'agences. Donc c'était assez confortable, donc on en a consulté 4 ou 5. On voulait une agence qui n'était pas trop grosse, mais pas non plus trop petite, puisqu'il y a parfois d'anciennes mères porteuses qui se lancent à leur compte et qui ont assez peu d'expérience par rapport à toute la complexité qu'il y a derrière. On a choisi une agence un peu particulière qui nous a beaucoup plu, qui a été fondée par deux papas homosexuels qui ont eu des enfants.
Excellent.
Par GPA. Voilà.
D'accord.
Et donc avec nous, en tout cas, il y a eu une relation de proximité qui s'est installée. En plus, l'un des deux était un ancien banquier d'affaires qui s'était reconverti là-dedans et qui n'était pas non plus dans la survente américaine, donc qui était assez réaliste. Donc on a choisi cette agence et on a donc négocié un contrat avec eux, pour qu'ils puissent nous représenter avec les mères porteuses. Et on a été tout de suite, en 15 jours, ils nous ont proposé un profil d'une femme qui habitait donc aussi entre San Diego et Los Angeles, Cassandra, avec qui on a fait un Skype tout
Alors,
de suite.
Juste une petite question. Donc, ce n'est pas du tout comme les donneuses, les mères porteuses. Vous n'avez pas un catalogue?
Non.
Est-ce que vous envoyez une vidéo qui vous présente ou quelque chose? Enfin, comment ça se passe? L'agence, tu me dis, elle vous représente, donc
elle nous a demandé.
Elle vous vend,
oui, tout à fait. Elle nous analyse, on va dire, très clairement. Donc, on a plusieurs interviews avec eux. Quel type de vie on a? Quel type de couple on est? Quelles valeurs on a? Nos antécédents? Et elle fait sans doute la même chose avec un certain nombre de mères porteuses. Il existe un catalogue, en fait, mais qui n'est peu consulté parce que c'est plutôt les mères porteuses, en fait, qui commandent, on va dire, cette relation.
Oui, c'est ça. C'est l'inverse avec la donneuse. Hein. C'est vraiment, il y a une loi d'offre et de demande
qui
c'est plutôt les mères porteuses qui vont vous choisir et non pas l'inverse.
Exactement.
D'accord.
Et l'agence, je pense, comme la plupart des agences, ont une espèce de sensibilité, comme une agence matrimoniale, aux qualités humaines des uns et des autres. Donc, ils nous ont matché, en fait, c'est un match, on appelle ça un match, qu'avec une seule mère porteuse. Donc, on n'a pas fait cette étape, en fait. Du coup, ça a été vraiment, à partir du moment où on avait les embryons, tout a été fait de manière très humaine, mm-hmm. Vraiment.
D'accord.
Le Skype avec Cassandra s'est très bien passé. Elle était très nerveuse, nous aussi, évidemment, puisque c'était la première fois qu'elle entamait cette démarche.
D'accord, c'était la première fois qu'elle était mère porteuse.
Oui. Elle a deux enfants, mm-hmm. puisque c'est un des critères de sélection des mères porteuses pour s'assurer que les grossesses sont naturelles et normales chez elle. C'était bien évidemment, comme tout le temps aux États-Unis, jamais la mère porteuse qui donnait ses ovocytes. Donc ce sont deux personnes différentes.
Oui, bien sûr. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait une espèce d'attachement.
Exactement. D'ailleurs, les Américains n'utilisent pas le terme de mère, ils utilisent le terme de donneur,
ouais.
Donor pour les gamètes, mm-hmm. et de surrogate pour la mère porteuse.
D'accord.
Et c'est vrai que on a maintenant ce hiatus un peu compliqué pour Cassandra quand on sait qu'en fait ce n'est pas la mère de notre enfant. Ça a été une personne qui l'a portée, qui a été extrêmement importante et donc qui a un rôle émotionnel très fort, mais ce n'est pas la mère puisque voilà, on
en
est deux garçons, donc il n'y a pas de mère.
Il faudrait dire porteuse, enfin on n'a pas
il faudrait
de mot
dire
en France,
porteuse.
Mais, il faudrait
mais les mots sont importants, porteuse. Donc je pense
ouais.
que c'est un point très important aussi dans l'aspect très psychologique et un peu conflictuel sur cette notion de gestation pour autrui.
Bien sûr, bien sûr.
En, en, En espagnol, on dit ventre de alquiler, ventre en location, donc qui est vraiment...
C'est pas très joli, mais enfin bon, effectivement, ça évite les confusions.
Exactement. Mais en tout cas, les noms sont, je pense, très importants et c'est pas encore figé. Donc, c'est aussi de notre responsabilité en tant que futurs parents de bien parler de cela, je pense. Et c'est vrai que le sujet de don d'ovocytes contre mère porteuse, 99% des Français ne savent pas que c'est deux personnes différentes.
Oui.
Et quand on l'explique, en fait, c'est vraiment un autre monde qui s'ouvre dans la tête des gens. Puisque d'un côté, surtout chez les femmes, qui comprennent que ce sont deux concepts en fait effectivement différents.
Tout à fait.
Bon, en tout cas, ça s'est très bien passé. Et à la fin du Skype, l'agence nous a rappelé en disant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais Cassandra vous a beaucoup aimé. Elle avait vu avant, en fait, on avait créé un petit groupe Facebook privé où elle avait pu voir toutes les photos sur notre enfance, notre vie, etc. Donc elle avait toutes les informations. Et on avait écrit aussi une lettre. Et elle voudrait faire le projet avec vous. Et donc, on avait la même réaction au même moment. Donc, on a dit « Ok, banco ».
Waouh, c'est quand même extraordinaire de tomber sur la bonne
dès le
début et de ne voilà, de pas effectivement avoir le sentiment de passer des entretiens.
En ayant, je pense pour elle et pour nous, un sentiment un peu de « on va dans l'inconnu » parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas ou sur lesquelles on n'est pas tout à fait à l'aise. Voilà, elle avait plus de compagnons à l'époque, elle est en train de divorcer, donc bon, est-ce que c'est bien, c'est stable ou pas, on ne sait pas tout de toute façon, mais bon, il faut avancer. Donc effectivement, il y a cette grande joie et puis aussi ce sentiment d'arriver vraiment là dans l'inconnu, puisqu'on passe dans l'humain et dans la vie de quelqu'un. La donneuse d'ovocytes, on n'en a plus entendu parler ensuite, elle était anonyme, tandis que là, c'était quelqu'un avec qui on allait passer pas mal de temps.
Bien sûr, et a priori, vous n'allez pas entretenir des relations avec la donneuse d'ovocytes, à part.
Non.
Peut-être qu'un jour, votre enfant demandera à la rencontrer, mais...
Voilà, il demandera ça, je pense, en tout cas à la connaître. À ce moment-là, elle a la possibilité, via une base anonymée, de dire oui, je suis d'accord ou non. Et
d'accord,
donc, ils peuvent entrer en relation.
Au moment où tu choisis la donneuse d'ovocytes, tu ne sais pas si elle, si elle veut être anonyme ou si elle accepte.
Tu as dans la grande fiche de profil le statut entre anonyme, semi-anonyme, qui est l'accès à la base de données, et open, où là,
et
tu
donc,
connais tout
elle,
le début.
Elle est semi-anonyme. D'accord.
Exactement.
Donc, elle a le choix de dire oui ou non au moment où l'enfant veut rentrer en contact avec elle.
Exactement. Voilà, donc après la joie du match, en fait, il y a quand même une période assez longue qui est frustrante parce qu'il y a énormément de vérifications pour que la machinerie soit bien huilée. Ça veut dire un contrat, donc un avocat, deux avocats, et l'agence, et nous, et la mère porteuse, donc beaucoup d'allers-retours, pour un contrat qui est quand même finalement assez standard et qui est censé nous protéger sur des situations qui peuvent arriver, mais qui aussi est dans le contexte du droit américain, où de toute façon, par exemple, une femme aux États-Unis, elle a le droit d'avorter quel que soit le contrat qu'elle signe, puisque en fait, il y a un amendement et un jugement de la Cour suprême qui fait que finalement, elle est décisionnaire là-dessus.
Elle est vraiment décisionnaire. Voilà.
Donc on l'écrit dans le contrat qu'elle ne peut pas le faire comme ça, mais bon, c'est quand même un risque qui existe.
D'accord. Effectivement, si jamais la grossesse se passe mal,
ou si elle
change d'avis, parce que c'est vraiment au début de grossesse qu'on avorte. Ouais, je ne sais pas aux États-Unis jusqu'à combien de semaines.
Je crois que c'est en Californie, c'est 22 semaines, il me semble.
Ouais. Oui, d'accord, donc ça va assez loin.
Ça va assez loin. Ouais. Peut-être que je peux me tromper.
Oui, donc il y a toujours un petit risque par rapport à ça.
Oui. Et donc, dans le contrat, alors évidemment, on essaye de dire « Ah oui, alors il faudrait qu'elle mange des produits fruits, légumes bio, etc. » Bon,
c'est ce qu'on en sait. Tu peux mettre des clauses comme ça?
Moi, je voulais mettre une clause comme ça parce que je suis très sensible à l'alimentation.
Oui,
mais
bien
bon,
sûr.
En même temps, j'imagine qu'elle va au Taco Bell de temps en temps. Donc,
Oui, surtout aux États-Unis, quoi. Bon, cela dit, elle est en Californie, donc...
Oui, il y a une sensibilité plus forte. Et puis, on signe le contrat et à ce moment-là, la clinique entre en contact avec elle pour procéder à tout un tas de vérifications sur ses capacités à avoir une grossesse, sa santé, etc.
Donc elle passe aussi des tests psychologiques,
voilà,
j'imagine.
Elle a un check-up par rapport à tout ça, et tests psychologiques, etc.
D'accord. Donc ça se fait après qu'on l'ait choisi, en fait.
Oui,
parce que c'est la clinique.
Et après qu'on ait signé le contrat, c'est dans ce sens-là ou pas? Non, c'est d'abord le check médical et ensuite on signe le contrat.
Ouais.
Parce qu'effectivement, si elle n'est pas checkée médicalement, ça ne sert à rien de signer un contrat. Donc c'est dans ce sens-là plutôt, j'ai inversé les deux.
Et ça prend combien de temps, grosso modo, entre le moment où tu rencontres...
Nous, ça nous a pris 5 mois, jusqu'en novembre, où on a fait la première tentative de transfert, en fait.
Ok.
Voilà. Parce qu'ensuite, il faut qu'effectivement, elle soit préparée, donc en prenant des médicaments par rapport à ses cycles.
Elle a une stimulation.
Exactement. Et donc, ça s'est passé la première fois en novembre. Voilà. Là, c'est très, 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 très émotionnel, puisque Bah, c'est comme, oui, c'est donc ça se passe à la clinique évidemment avec toute l'équipe qu'on avait déjà vue avant, qui
Vous
nous
êtes
prévient.
déplacé, du coup, vous êtes là-bas.
Non, on ne s'était
Non?
pas déplacé.
Alors, oui, parce que
Un certain
tu me
nombre de
diras
couples se
combien de
déplacent.
fois vous êtes allé aux États-Unis pour.
Alors en fait, on y est allé 3 fois.
Trois
Enfin, on
fois,
va
oui.
y aller 3 fois, y compris pour la naissance.
D'accord,
On y
ok.
allait une fois pour le don de sperme, une fois pour rencontrer Cassandra en vrai, et on va y aller là donc du coup pour la naissance.
Ok, d'accord. Mais bon, le jour du transfert des embryons, vous n'y étiez pas, mais vous attendiez cela avec
Oui,
grande
surtout qu'on est préparé
impatience.
par la clinique une semaine avant, puisqu'ils réveillent les embryons 6 jours avant. Ils les font se développer un petit peu, ils voient où ils en sont et ils sélectionnent celui qui leur paraît être le plus intéressant. Et donc le transfert a lieu. Et ce transfert, donc on y a assisté en fait par Skype, puisque Cassandra était allée avec une amie. Et donc on a vu sur l'écran, on ne voyait rien, hein, franchement, c'est tellement médical. Mais bon, c'est pas grave. Et moi, j'ai quand même, à chaque fois qu'on l'a fait 2 fois, du coup, j'ai quand même senti quelque chose qui se passait, une espèce de filament quelque part dans l'univers. Voilà. Bon, on y croit ou pas, mais
Tu as vécu la chose.
oui, je me suis dit quelque part, il y a eu quelque chose. Et puis,
Donc deux fois, parce qu'il y a eu deux transferts d'embryons
oui, on
ou...
a fait une
Ouais.
première tentative qui n'a pas marché, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, et on était à Noël à peu près, avant Noël, on a eu un message de la clinique qui disait, bah, là, on a fait des tests de grossesse. Et bah, ça n'a pas pris, donc le nombre de je sais plus quoi n'a pas doublé là tous les jours pour pouvoir
D'accord.
atteindre les taux qui étaient attendus. Donc on était vraiment abattus, évidemment. C'était
Tu vis
hyper
ça quand
dur.
même comme un échec, ouais.
Oui, en fait, à chaque
Enfin.
étape qui avance, on est hyper content. Et je pense que là, on rentre déjà dans le rôle de parent, puisqu'en fait, à chaque fois, on se rend compte que rien n'est fait, et que tout peut être remis en cause. Un échec, une maladie, un accident, voilà, du jour au lendemain. Donc on commence à
Bien
lâcher
sûr.
prise en fait. Et donc on est moins, on a plus de distance en fait à chaque fois. Mais c'est vraiment cette étape-là où moi j'ai accusé le plus le coup, où je me suis dit, ah, franchement, faut repartir pour un cycle et tout ça. Et est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est la qualité de l'embryon ou la personne qui a donné le sperme? Enfin voilà, on se pose
Oui.
plein de questions. Est-ce que c'est Cassandra? Est-ce que c'est l'hôpital? On sait rien. On sait rien en fait. Et bon, donc du coup, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, ça arrive quand même, bien que dans ces cas-là, normalement, avec toutes les précautions qui ont été prises sur le respect de tous les éléments, il y a 75 à 80% de taux de réussite normalement. Donc évidemment, on était dans les 20%, donc on était un peu abattus, mais on s'en est remis. Et puis, ça nous a permis aussi d'en discuter avec nos familles plus, en fait, à ce moment. C'est à peu près à ce moment-là où on a fait notre coming out avec les familles.
D'accord, oui, j'allais te poser la question par rapport à ça, effectivement.
Ouais, on en a parlé à peu près à un moment où on avait matché avec Cassandra et on avait des embryons, donc on savait que ça allait sans doute se réaliser, mais on ne savait pas quand.
C'était pas la peine d'en parler avant, en fait.
Non, parce que le sujet est tellement clivant et compliqué et que voilà, on a besoin d'avoir toutes nos forces, quoi. De ne pas se retrouver avec des obstacles de gens qui nous aiment et qui peut-être se posent des questions qui viennent complexifier encore notre psychologie à ce moment-là. Donc on en a parlé juste à ce moment-là, ouais, pas avant.
Et comment les familles ont accueilli la nouvelle?
Ma famille, bon, bah, puisque je les connais plus, en tout cas, mon père et ma mère, c'était vraiment très intéressant. Au début, ça a été très compliqué pour eux à comprendre, puisque d'abord, ils avaient ce hiatus entre la mère porteuse et la donneuse qu'ils ne connaissaient pas. Ma mère est très féministe, donc pour elle, c'était un sujet aussi compliqué.
Ouais.
Et puis, voilà, donc ils voulaient pas trop non plus s'impliquer émotionnellement parce que c'était tellement un peu extraterrestre que c'était vraiment vraiment compliqué. Alors d'un autre côté, ce sont des gens qui adorent les enfants, qui s'occupent d'enfants de mes cousins depuis 10 ans parce que mon frère et moi n'en avions pas jusqu'à maintenant. Donc voilà, mais c'était encore quand même l'homosexualité, le fait que je sois homosexuel, etc., a toujours été très compliqué à accepter peu à peu.
D'accord.
Et en fait, à partir du moment où on a été enceinte, enfin quand Cassandra était enceinte, il y a eu une rupture. Et là, en fait, ils se sont vraiment rendu compte que ça arrivait. C'est en plus au même moment où on s'est marié avec Maxime. Et je pense que pour eux, après c'est mon analyse, mais ce que ces facteurs de normalité étaient très importants. Voilà, donc là, le mariage, c'est une fête où il y avait aussi la famille, mes oncles et tantes, etc. L'enfant, c'est quand même un marqueur, et c'est aussi sans doute une raison pour laquelle on le fait, de normalité sociale quand même quelque part.
Bien sûr, bien sûr.
On est des êtres humains, donc on a envie d'être aimé, considéré socialement. C'est pour ça qu'on travaille en grande partie. Et je pense que ça fait aussi partie de ça. Et donc voilà, on a rejoint un petit peu la grande cohorte humaine des gens normaux, même si on se sent pas normaux. Donc pour eux, il y a eu une bascule à ce moment-là. Et donc ça c'est devenu très positif. Voilà. Donc on en parle vraiment librement. Mais par exemple, quand on était dans les choix de mère porteuse, de donneuse d'ovocytes, et que j'évoquais le sujet avec ma mère sans forcément nous nommer, etc., elle était mais outrée, genre, par ce catalogue de femmes à consulter.
Bien sûr.
Ouais, c'est vrai que je peux le comprendre. Sorti du contexte, et dans toutes les interviews où c'est mentionné, notamment les reportages, c'est toujours sorti du contexte, ça peut paraître hyper brutal. Nous, on n'a jamais senti qu'on était soit des criminels, soit des tortionnaires. Par ce contexte réglementaire, social aussi, où les mères porteuses en Californie seront extrêmement bien considérées. Cassandra nous racontait qu'une fois, elle était au supermarché, relativement enceinte, et quelqu'un lui dit « Ah, c'est pour quand ? Et votre mari est où ?» etc. Elle a expliqué la situation, et la personne qui était une dame assez âgée lui a dit oh, « C'est génial, vous faites ça pour donner la vie,
oui,
bravo !»
Oui, comme si, comme s'ils étaient plus progressistes.
Oui, oui, tout à fait. Et donc, quand on est aux États-Unis, on a rencontré la maman de Cassandra, elle était aussi hyper positive. Donc, c'est vraiment la société est très différente, même si j'ai lu récemment que 56% des Français étaient favorables à la GPA, ce qui est extraordinaire, puisqu'il y a 5 ans, c'était moins de la moitié.
Absolument.
Il y a besoin de beaucoup d'explications. C'est ça qui est rageant en France, c'est qu'on a un système médical et social tellement extraordinaire que si on transposait cette possibilité unique en France, déjà, on sortirait du tout le problème de l'argent, et puis on se retrouverait avec des situations complètement normées où personne ne souffrirait. Enfin, c'est la limite de l'hypocrisie, de cette illégalité en France et de cette légalité à l'étranger dans un monde où aujourd'hui les frontières sont pas du tout effectivement le reflet de ces réglementations.
Oui, absolument. Absolument. Bah, c'est un peu le même principe que la PMA pour les femmes seules qui va se faire en Espagne.
C'est vrai.
Avec tout le tourisme PMA, alors que ça pourrait très bien se faire en France.
Oui, oui.
Mais qu'il y a des mentalités encore
bien sûr.
Qui ont encore un peu de mal à évoluer.
Oui. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est dommage que ça ne soit même pas possible d'un point de vue expérimental. Alors, mais voilà, peut-être qu'il faudrait tenter une expérimentation encadrée en France qui permette de sortir des tabous, etc. Mais c'est vrai que les sujets, on a tendance à les prendre dans le blanc ou noir. Donc, il ne se passe rien et ensuite, il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, ça bloque beaucoup de choses.
Oui, bien sûr.
Mais bon, ça va forcément évoluer ou un pays en Europe va peut-être se réveiller et se rendre compte que c'est... que c'est un marqueur de progrès, et donc là, ça fera sans doute bouger les lignes. Après, ça reste quelque chose d'extraordinaire, donc il faut vraiment bien l'encadrer, effectivement, et c'est quand même, ça reste quand même très compliqué dans les étapes, bien sûr.
Bien sûr. Alors, donc, tu me disais que tu en parlais à ta famille. Peu de temps après, il y a ce second transfert.
Oui. Au mois de février, qui fonctionne.
D'accord.
Qui fonctionne. Et donc là, on rentre dans une joie immédiate, mais aussi une autre phase d'anxiété qui est est-ce que l'enfant va être bien ? Est-ce que Cassandra va le supporter ? Comment ça va se passer ? Comment elle va réagir ? Est-ce que les premiers ultrasons, les premières consultations de gynéco vont bien se passer ? Donc voilà, tout un tas. Donc on vit beaucoup la grossesse à ce moment-là. On se pose beaucoup de questions aussi. C'est là où commencent les questions sur qu'est-ce qu'être père, quel type de père je veux être, comment j'endosse ce rôle, comment mon conjoint va aussi l'endosser. Voilà, donc on constitue vraiment beaucoup de discussions à ce moment-là, beaucoup de lectures aussi, enfin de mon côté, moi je lis beaucoup, Maxime pas trop parce qu'il préfère être dans l'expérience de réalité. Moi j'aime beaucoup lire, donc j'ai lu extrêmement beaucoup de bouquins. On parle énormément avec des couples hétérosexuels ou homosexuels qui ont eu des enfants, on rentre vraiment dans une grossesse pendant les 9 mois. On connaît énormément de choses sur la femme d'ailleurs. Enfin, j'ai encore lu la semaine dernière la description de l'accouchement, c'est quand même quelque chose.
C'est sûr, c'est vrai.
Et donc on comprend beaucoup tous ces éléments-là quand même. Et on a envie d'accompagner.
Oui, de vivre au plus près ce qui se passe. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous posez aussi la question de l'âge ou pas du tout ? Parce que vous avez donc 40 ans,
oui.
Plus ou moins 40 ans l'un et l'autre.
Non, on n'a pas vraiment. Ça a vraiment jamais été vraiment un sujet. Pourquoi? Parce que dans la famille de Max, son papa a 15 ans de plus que sa mère. Donc il est assez âgé en fait. Il a eu Maxime quand il avait plus de 40 ans. Et jamais, on en a parlé, du coup, ça n'a jamais été un sujet. Il y a aussi cet aspect où aujourd'hui, à 40 ans, j'ai vraiment l'impression que les gens ont 30 ans. Enfin, je regarde les photos de mon père à 40 ans, c'est. Il y a quand même un poids de la vie qui apparaît, on a l'impression physiquement beaucoup plus fort. Et puis, j'ai jamais eu trop peur de cet aspect quand tu auras 60 ans, il aura 20 ans. Parce que, non, je sais pas, c'est peut-être de l'optimisme ou un
Oui, ou une
peu.
question qui vous a tout simplement pas
Pas
effleuré.
effleuré,
Voilà,
non.
c'était.
Par contre, j'ai beaucoup valorisé le fait d'avoir de l'expérience, moi. J'aurais été un très mauvais père à 25 ans.
Tu t'es
Vraiment.
dit que cette
Ouais.
maturité allait forcément
Oui.
te
Et
servir.
puis, à 25, 30, 35, on est dans ce tourbillon de la vie où on a besoin de se prouver qui on est, d'avoir une accession professionnelle, etc., qui prend beaucoup de temps. Et moi, un des seuls enseignements de tous les livres que j'ai pu lire ou des discussions, c'est il faut donner ce temps à l'enfant. On ne
Absolument.
peut pas considérer qu'on va être un super papa ou une super maman en faisant plus de choses, en ayant un agenda super organisé, parce que on peut le faire, mais ça va se transformer dans des situations de conflit ou de stress avec l'enfant ou dans son couple qui sont évitables, vraiment. Mais il faut redonner du temps. Et j'aurais pas été capable de le faire à 25 ans ou à 30 ans, parce que j'aurais eu l'impression de passer à côté de quelque chose d'autre. Donc voilà. Pour ça.
Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, les parents tardifs sont connus, hein, pour être plus engagés, plus disponibles auprès de leurs enfants.
Oui, je
Parce qu'on a
pense, hein.
effectivement
Ouais.
un peu sa carrière derrière
Et
soi,
puis
homme
nous,
ou
moi,
femme.
avec Maxime, on a la chance d'avoir pu mettre un petit peu d'argent de côté, ce qui nous a permis de faire le projet, et puis aussi de ne pas avoir ce stress-là. Donc du coup, c'est vrai que c'est, je sais pas à quoi il va ressembler cet enfant, mais il a en tout cas toute l'attention et la bande passante nécessaire, s'il le veut.
Ok, donc cette grossesse se passe bien. J'imagine que vous attendez quand même les 3 mois
Bien sûr. Oui,
parce que
on n'en a parlé qu'après les 3 mois. On était
ouais.
encore plus en plus prudents à chaque étape. Et elle s'est passée bien, oui. Après, il y a eu une des analyses de sang en fait qui n'était pas bonne. Donc, on n'a pas su si c'était un faux vrai résultat, etc. Donc, en fait, à partir du troisième mois, Cassandra a été aussi vue par un médecin à risque, pour les grossesses à risque. Donc, ce qui était quand même très stressant parce qu'à chaque fois, les consultations duraient longtemps. On a assisté à la première en anglais. En fait, c'était pas une très bonne idée parce qu'à distance, on se stresse plus qu'autre chose et on comprend rien. Et donc, bon, voilà. Et en même temps, tout ce processus m'a fait beaucoup évoluer en me disant, bon, quel que soit cet enfant, de la façon dont il naît, on l'acceptera parce que vraiment, on a fait tout ça pour ça et c'est une vie humaine qui arrive. Sur le sujet de, par exemple, la trisomie. On était très différents au début. Maxime, pour lui, était capable d'avoir cette expérience. Moi, pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, si ça arrive, je pense que ça va être très difficile, évidemment, mais je me sens prêt à le faire. Voilà.
D'accord, oui, ça c'est
Mais
un grand
c'est.
pas quand même, effectivement.
Oui, alors je le dis aujourd'hui, après, évidemment, j'espère pour lui et pour nous que ça n'arrivera pas, mais. Quand ça sera là, ça sera sans doute quelque part très compliqué, mais ça ne sera pas non plus une catastrophe comme ce que j'aurais pu penser avant.
D'accord.
Donc l'acceptation de la différence, elle se fait aussi beaucoup parce qu'on réfléchit à tous ces sujets-là et qu'on se pose la question du sens, en fait, finalement, je
Plus
pense.
vous avancez dans le process, plus vous êtes dans le lâcher prise, en quelque sorte.
Complètement,
Oui.
complètement,
Ok.
complètement. Et puis parce qu'on se rend compte que on va devoir de toute façon défendre cet enfant contre des attaques contre sa différence. Donc on s'arme en fait par rapport à tout ça et on se met dans cette position aussi de parent par choc par rapport à ça. Parce qu'on a discuté effectivement avec des couples qui ont dit qu'à l'école c'était pas toujours évident, dans la vie de tous les jours non plus, par rapport aux questions de l'enfant non plus. Donc voilà, donc on va s'affronter à tout ça. Et moi, c'est un peu comme mon homosexualité, en fait, depuis quelques années. je le prends comme une chance dans le sens que c'est vivre une diversité. Alors en même temps, je reste un homme blanc qui a de l'argent, qui vit à Paris. Voilà, mais le sujet du féminisme, par exemple, je suis beaucoup plus sensible aussi à cause de ça, parce que. Parce qu'on vit la diversité et potentiellement la différence et les problèmes qui peuvent aller avec. Donc, dans ce rôle aussi de parent protecteur et capable de vivre cette diversité, c'est très important de l'assumer dès le début, je pense, quand on fait un projet d'enfant avec une famille homoparentale. Ça, c'est clair. On ne peut pas penser que tout va aller bien, même si on habite dans un arrondissement de Paris ou qu'on est entouré par des gens super. Il y aura des moments très durs. Ou l'enfant peut tout à fait le vivre très mal.
Bien sûr.
C'est possible. C'est possible.
Donc aujourd'hui, à un mois de l'accouchement, Cassandra va bien.
Cassandra va bien. Elle est très heureuse de sa grossesse. Elle a pris 14 kilos. Elle est très contente parce qu'elle se trouvait trop maigre. ça se passe très bien avec ses deux enfants aussi. Donc, on a rencontré quand on est allé la voir. On a passé un week-end entier avec eux trois.
D'accord.
C'était important pour eux aussi de comprendre qui étaient les papas, pourquoi le bébé n'allait pas rester.
Bien sûr.
Voilà. Et pour nous, c'était aussi important de nouer une relation plus intime avec Cassandra pour pouvoir parler d'elle et imaginer son rôle dans la vie future de l'enfant. Parce que si elle veut avoir un rôle, comme pourrait avoir une nourrice ou une marraine, elle l'aura. Parce que tout s'est bien passé. On n'est pas dans le cas où ça s'est mal passé, où il n'y a pas eu d'atome crochu, donc il n'y a aucune raison. Voilà, on est dans une relation affective avec elle. Et donc on a créé cette relation intime avec elle qui est très importante. Voilà.
Ouais.
Et qui lui permet aussi de bien passer sa grossesse. Donc tout se passe bien. Dans un mois, c'est prévu pour le moment dans un mois. Après, ça peut être un peu plus tôt, donc on va devoir s'organiser. Mais ces deux premières grossesses étaient à terme. Donc voilà. On va aller aux États-Unis pour passer dans cette nouvelle phase.
Vous y allez quelques jours avant la date prévue d'accouchement ?
Oui, on y va 10 jours avant la date prévue d'accouchement, qui est elle-même prévue une semaine avant le terme, puisque les docteurs préfèrent... ne pas prendre de risque, ils considèrent que pour les Américaines, c'est plutôt la 39e semaine où il y a le moins de risque en termes de, d'accident à la naissance, etc. Donc on a à peu près cette marge d'une dizaine, quinzaine de jours.
Ok.
Voilà.
D'accord. Et comment vous envisagez la suite ? Parce que ensuite, il faut ramener l'enfant sur le sol français. Comment va-t-il être accueilli ?
Alors. Encore une fois, la PGL et ses groupes de parole et ses conseils nous permettent de connaître quand même précisément la situation, donc d'un point de vue légal, administratif, papier, CAF, sécurité sociale, crèche, etc. Donc tout ça s'organise, pas rentrer dans le détail, mais en fait, il y a vraiment, même sur leur site, pas mal d'informations et de fiches sur tout ça. Donc ça va être détaillé et un peu compliqué, mais connu. Donc sur cet aspect-là, il n'y a pas de... On n'a pas vraiment d'appréhension majeure. Après, on a pris la décision, il y a un an, de créer un cocon autour de la naissance. Grosso modo, on s'est dit que on devait tous les deux prendre un temps off de nos vies actuelles, donc professionnelles et d'activités sociales, pendant 3 mois.
D'accord, waouh, c'est super. Un super congé paternité de 3 mois à 2.
Exactement, exactement. Donc on a fait en sorte de professionnellement que ça puisse se passer.
Un peu à la danoise ou à la suédoise, où je
crois
que
c'est vrai, effectivement.
A droit effectivement à quasiment autant de jours que la mère, et ils peuvent se
partager.
C'est ça.
Et en Espagne aussi, je crois, depuis le gouvernement de Pablo Sanchez de l'an dernier. Donc et c'est un marqueur, et je pense que c'est un degré d'évolution des sociétés majeur qu'on sous-estime, parce que Ça a défini dès le début que les rôles à la maison sont des rôles qui peuvent être partagés, qui doivent être partagés et qui permettent à la femme aussi de se libérer d'un certain nombre de préconditionnements qui, même dans les couples les plus évolués, par tendresse, par habitude, par référence de ses propres parents, se met en place, mais dans lesquelles il n'y a aucune raison. Et puis, deuxième aspect, c'est que quand on a 40 ans, qu'on soit un couple hétérosexuel ou homosexuel, c'est aussi l'occasion de peut-être redéfinir les règles d'un couple et que quelqu'un qui a travaillé beaucoup pendant les 10 dernières années va peut-être passer à l'envers, que quelqu'un d'autre peut avoir une nouvelle carrière. J'ai 2 ou 3 exemples d'amis de couples hétéros qui sont comme ça en ce moment. Et je trouve ça vraiment super positif.
Ouais, tout à fait.
Et pas se cantonner dans ce rôle à vitam aeternam, surtout sur des gens qui ont fait des études en plus assez similaires. Et donc, voilà. Et après, dans la génération des papas plus jeunes, je pense qu'il y a une évolution quand même sensible sur les rôles. Mais le congé égalitaire entre les deux marquerait vraiment que ça soit vraiment la règle de base. Pas obligatoire, mais vraiment la règle de base, l'égalité, je pense que ça changerait beaucoup de choses dans peu à peu l'évolution de la société et donc le rôle des femmes.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, donc on va faire ça. Et donc on n'a pas de nounou ou de crèche pendant les 3 premiers mois. On va avoir... L'enfant ne vient pas tout seul dans les familles homoparentales, hein, il est souvent très accompagné par les grands-parents ou par d'autres personnes qui sont proches. Donc là, ça sera le cas.
Oui, comme dans les couples, enfin dans les familles hétérosexuelles.
Tout à fait.
Oui,
voilà,
tout
donc
à fait.
On oublie aussi ce côté-là, hein,
qui
multiplie les rôles et les références de l'enfant. Céline Alvarez, je viens de lire le bouquin « Les lois naturelles de l'enfant », vraiment son expérience d'école, et elle est entièrement basée aussi sur le fait que les enfants ont besoin de plein de rôles différents, d'âges différents.
Ouais.
Donc voilà, là on n'est pas cantonné dans un rôle mono avec la maman aussi, qui peuvent être dans certaines familles un peu peut-être excessif, où le papa disparaît totalement.
Absolument.
Donc voilà, ce côté instinct maternel, instinct paternel, qui était une grande question que j'avais au début, moi je suis complètement à l'aise par rapport à ça maintenant. Je me sens capable de... d'apporter tout un tas de compétences et de besoins, de combler un tas de besoins affectifs et beaucoup plus primaires de l'enfant. Et j'ai quand même besoin aussi qu'il ait des présences féminines. Donc on a choisi 2 marraines. Voilà. On s'est dit qu'il avait déjà 2 papas, donc c'était pas mal d'avoir 2 marraines.
Génial.
Qui, pour nous, ont un rôle véritablement aussi d'un peu d'appel à un ami ou de joker si jamais il y a un petit problème psychologique ou sentimental ou de questionnement.
Ce sont des marraines qui sont déjà mamans ou pas ?
Une des deux est maman, ouais, d'une petite fille d'1 an. Et l'autre est la sœur de Maxime. Donc voilà, il y a un rôle assez différent en plus dans les âges. Et donc on n'est pas du tout religieux, mais ce rôle de marraine était vraiment important pour nous dans la construction du cercle familial. Parce que les parents de Maxime habitent très loin en Amérique latine et mes parents habitent en province. Donc il y a aussi quand même ce besoin de proximité.
Bien sûr.
Donc on a constitué tout ça. Et c'est vraiment notre préoccupation majeure. J'ai aucune idée de savoir comment se passera l'après 3 mois. Parce que ça dépend beaucoup de l'enfant, je pense, de notre capacité d'interaction.
Oui, et puis c'est vrai qu'il faut se laisser un petit peu d'improvisation
ouais,
aussi,
tout à fait,
parce
ouais.
qu'on
ouais, ouais.
construit beaucoup les choses. C'est vrai qu'à 40 ans, on est, et alors, d'autant plus dans votre cas, parce que c'est un projet quand même, la GPA, donc on est en mode projet, et peut-être qu'à un moment, il faut aussi...
Oui, il faut arrêter d'être en projet, quoi.
Voilà. Faut peut-être laisser un peu une part d'improvisation. Ah, et c'est vrai que là, vous êtes déjà bien préparé.
Oui, oui, c'est clair. C'est clair qu'on est, on est quand même bien préparé. On n'a pas fait ça à l'improviste. Mais après, effectivement, tout le monde me dit oui, lis les bouquins, mais ça ne sert à rien. Mais lis-les, ça va te faire du bien.
C'est ça.
Fais plein de grosses nuits, mais ça ne sert à rien parce que tu ne peux pas stocker le sommeil. Donc voilà. Et après, un dernier aspect sur ces 3 mois qui est important, c'est que on regarde des livres de référence qui est, je crois, « Comment parler avec bébé » ou quelque chose comme ça, qui est vraiment le livre que tous les parents recommandent, ou même dans des disciplines comme l'Ayurveda, etc. Ces 3 mois sont très importants et constituent une espèce de complément de grossesse extra-utérine. La grossesse dure en fait vraiment 12 mois.
Oui, c'est le fameux 4e trimestre.
Voilà, et donc pour nous, ça c'est vraiment important parce qu'on se dit « Waouh, c'est génial, on a quand même la chance de pouvoir, dans cette étape très importante, être très près du bébé, faire du corps à corps, être dans du portage, peut-être du cododo, et donc créer une relation physique qui est importante pour pas que voilà on sente non plus trop cette séparation, parce qu'il y aura une séparation de Cassandra qui est très forte. Donc on vit ce projet comme un complément de grossesse. Donc on le vit vraiment comme ça.
C'est super, c'est bien de s'être documenté là-dessus. Et,
ouais, c'est vrai que c'était une surprise.
Et de
moi,
pouvoir
je
le,
pas du tout,
le formuler comme ça en fait.
Ouais. Voilà, donc on le formule comme ça. Après, on ne sait pas comment ça se passait, mais on a ces 3 mois qu'on a relativement bien préparés. Et donc, on sera aux États-Unis pour la plus grande part de ces 3 mois. On a décidé de rester là-bas.
D'accord, ok.
Aussi parce que le mari du créateur de l'agence est pédiatre. Donc, du coup, on a un pédiatre là-bas. Et que, bah, en fait, on n'a jamais vécu aux États-Unis. Je ne pense pas qu'on y aille un jour. Et bon, c'est quand même la Californie. Donc,
C'est
par
une
rapport à
occasion
Paris au mois de
rêvée.
décembre, voilà, c'était
C'est un
tentant.
peu l'occasion rêvée,
Donc, on va
oui.
faire ça avec nos parents respectifs qui viennent nous voir aussi. Donc,
Wow, ah, c'est chouette.
voilà. Donc, on a beaucoup de chance, beaucoup de chance. Il y a beaucoup de parcours qui ne se passent pas aussi bien non plus, il faut le dire, et qui peuvent être compliqués aussi pour les couples. Mais c'est la même chose dans les FIV pour les couples hétéros en France.
Oui, je dirais que voilà, c'est pas quelque chose qui est caractéristique des couples homosexuels.
Non, ou de la
C'est
GPA.
de toute façon la PMA et la GPA, enfin, quand les choses se passent pas spontanément, c'est de toute façon ça peut être un peu plus compliqué, on va dire.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est révélateur de certaines choses qui se passent dans le couple, etc. Donc, voilà. Ce que nous a dit la BGL et qui est vrai, je pense, quand je vois avec les autres couples qui sont dans le groupe de parole, c'est que c'est long, c'est compliqué, c'est parfois douloureux, mais au bout du compte, on y arrive quand même dans 99% des cas.
D'accord.
Donc, il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup d'amour, parce que c'est compliqué Enfin, faut pas être dans le conflit, quoi, ça c'est sûr.
Alors, sur un plan plus bassement juridique, si je puis dire, comment ça se passe pour la reconnaissance de l'enfant par le deuxième parent?
Alors,
Est-ce que vous êtes renseigné
bien
là-dessus?
sûr, il y a une chose qui est très claire et qui est la jurisprudence depuis quelques années en France, surtout depuis, je crois, la circulaire Taubira. C'est que il y a une procédure qui se passe en 2 temps qui est possible et qui fonctionne. Le premier temps, c'est donc le retour en France avec l'enfant qui a le passeport de l'autre pays, mais qui a un père biologique français, et qui donc va être reconnu par l'État français comme français, et qui va obtenir des passeports, et va obtenir tout ce qu'il faut pour reconnaître que son papa biologique est son papa, et qu'il a l'autorité parentale sur lui. Le deuxième élément, c'est de pouvoir obtenir la reconnaissance de l'autorité parentale et du lien de filiation d'attention de l'autre papa. Où là aujourd'hui, c'est plus long, c'est plus compliqué. Il faut passer par une procédure d'adoption. Donc, il vaut mieux être marié parce qu'en fait, ça renforce cette procédure. Donc, avant la gestation pour autrui, beaucoup de couples se marient. Et cela est délivré au bout de grosso modo 1 an de mémoire avec une procédure, avec un avocat français où on a la reconnaissance. Donc voilà, donc c'est quand même compliqué et assez douloureux et insécure pour l'autre papa puisqu'il peut se passer quand même des choses un peu tristes pendant cette période
Ouais,
dans
bien
la vie.
sûr, bien sûr.
Donc un décès ou une séparation ou voilà, enfin il se passe
Ouais,
des choses.
et 1 an, c'est vrai que c'est quand même long.
C'est quand même long. Donc c'est inconfortable. Par contre, pour les couples qui vivent et qui sont mariés à Paris, on nous a parlé aussi d'une autre procédure qui existe avec ce qu'on appelle une exécution judiciaire de la situation familiale étrangère. Donc, je vais essayer d'être simple et de ne pas me tromper. On a en Californie un jugement du juge post-naissance qui nous reconnaît comme les deux parents, dont un parent biologique, avec le nom de l'enfant, sa date de naissance. On a l'acte de naissance et l'état civil américain avec la même situation. Le juge américain a reconnu qu'on était marié. Donc, en fait, il y a une situation dans ce pays de famille complète. Dès le début, qui dit, il y a oui, effectivement 2 papas mariés avec un enfant. Ils constituent une famille. Il y a la possibilité, apparemment, dans certains tribunaux de grande instance en France, de saisir le président du tribunal via un avocat qui lui demande de reconnaître l'intégralité, d'exécuter. Procédure d'exécuture, je crois, l'intégralité de cette situation dans le droit français. Et donc, le procureur peut exiger de l'état civil français qu'il le fasse en direct.
D'accord, et ça permet de gagner une étape en
Ça
fait.
permet de gagner une étape, c'est beaucoup plus court, je crois, 4 à 5 mois. Mais on ne l'a pas fait, tous les avocats ne le font pas, donc c'est un petit peu l'incertitude quand même. Mais il faut se renseigner par rapport à ça avec un ou deux avocats que l'APGL peut encore une fois recommander
D'accord.
à ce sujet. Qui fonctionne avec les États-Unis, je ne sais pas si ça fonctionne avec d'autres pays. Bon, bien sûr, il
Ok,
faut toute
bah,
une
c'est intéressant de savoir
traduction.
que ça existe.
Oui, ça existe en tout cas, a priori.
Ok. Une dernière question peut-être, aurais-tu des conseils à donner aux couples homosexuels qui veulent se lancer dans une GPA avec le recul que tu as sur la situation et ton expérience personnelle?
Je pense que un des conseils que je donnerais, c'est de beaucoup parler avec son conjoint, avec sa conjointe, avec des structures, des familles, des gens aux États-Unis. Voilà, d'être dans cette savoir que ça va être un projet basé sur des discussions. Et donc de ne pas partir avec des idées reçues et surtout de ne pas rester dans sa tête là-dessus. Parce que le projet qu'on a aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le projet qu'on avait il y a 2 ans. Dans notre connaissance, notre appréhension du rôle de père, de la place de l'enfant, de notre relation de couple. Donc c'est un projet transformant. Donc il faut être prêt à ça. C'est vraiment un projet qui demande de se remettre en question. Sur les concepts voilà, de transmission, de filiation, du rôle du père, du rôle de la mère, du type d'éducation qu'on veut avoir, etc. Voilà, c'est vraiment ça, je pense, qu'il faut faire. C'est.
D'accord, beaucoup de dialogue.
Oui, voilà. Et ce qui fait de ce projet sa grande humanité, en fait. Parce qu'on est en relation avec d'autres personnes en continu. Et donc, ça n'a rien à voir avec je commande un bébé sur un catalogue. Alors, enfin, c'est impossible.
Bien sûr, oui. Et ça,
On
c'est
se plante
vraiment un
complètement.
cliché qui a encore la vie très dure. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait cette interview aujourd'hui aussi, c'est pour essayer de casser un peu ça. Mais effectivement, c'est une expérience beaucoup plus humaine qu'on peut l'imaginer.
Bien sûr, bien sûr. Donc je le recommande aux couples qui peuvent le faire. Et puis l'aspect financier est quand même un aspect qui me choque encore.
Oui, alors j'ai oublié de te demander, mais ça vous a coûté combien?
En tout, le budget qu'on a pour toutes les étapes, c'est 130 000 euros. Donc c'est le prix d'une maison, on va dire. Donc c'est pas accessible à tous les budgets. Après, je pense qu'il faut aussi, voir avec certaines banques, il y a des possibilités d'avoir des emprunts. Et donc, voilà, il faut à ce moment-là l'assumer et puis trouver l'agence avec la bonne personne qui le fait. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. La procédure aux États-Unis est plus chère qu'au Canada. Au Canada, c'est beaucoup moins cher. Ça doit être 60 à 80 000 euros. C'est un peu moins organisé aussi, c'est plus long, il y a moins de garanties, voilà, il y a plus d'incertitudes, mais c'est tout à fait aussi acceptable. Et voilà, et donc c'est vrai que c'est un aspect quand même aujourd'hui très important. Sachant que cette somme est très décomposée entre tous les acteurs. Donc aux États-Unis, par exemple, la mère porteuse ne peut pas dépendre de l'aide sociale de l'État. Donc elle doit avoir un certain niveau de revenus quand même. Et en fait, finalement, la somme qu'elle perçoit, qui va être de 40 000, 45 000 dollars, déjà à l'échelle des 9 mois de grossesse, c'est pas tant que ça, hein. Et puis, ça leur permet de créer des projets de vie, hein. Dans notre cas, Cassandra va pouvoir commencer une école d'infirmière grâce à ça. Mais c'est pas non plus quelque chose qui vont leur permettre d'aller se la couler douce à Palm Springs pendant 25
Oui,
ans.
bien sûr,
Donc
oui.
Ça reste une part qui est voilà, qui crée pas un fossé entre nous.
Merci Ludovic de nous avoir confié ton histoire. Ton témoignage nous montre qu'au-delà des fantasmes qu'elle suscite, la GPA peut être éthique, bienveillante, solidaire et tout simplement le fruit d'une histoire d'amour. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook. À très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.